Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel au grattement de barbe. Oui, Thio est en train de se frotter violemment la barbe contre le micro. Il adore ça. Ça le met dans un état d'extase. Il faudrait que vous le voyiez.
J'ai l'œil humide et je remue la queue aussi.
Ça y est, j'ai l'image dans la tête. Je suis corrompu. Je vais pouvoir aller me pendre. Bonjour, Thio.
Bonjour.
Eh bien, nous sommes là pour une nouvelle émission après 15 jours, qui pour nous sont passés très très rapidement, car on enregistre deux émissions à la fois. On va pas vous le cacher.
Il y a juste eu un café entre les deux.
Voilà. Et puis un peu de préparation, mais on est lancé. On espère que vous avez été nombreux à nous écouter pendant cette quinzaine. On le suppose, hein. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Vous êtes notre public adoré, nous vous aimons beaucoup. Oui, non,
oui,
tu pourrais dire que tu les aimes.
Oui, je les aime tous. Je vous aime tous.
Ça fait un peu plus faux cul, tu vois, là, pour le coup. Mais bon, on va dire que oui, tu les aimes. Voilà. Enfin, d'un autre côté, si nos copines nous écoutaient, nous serions moins faux cul.
Ils ont autre chose à faire, en fait.
Alors, comme vous l'avez vu, donc, nous avons coupé l'émission en deux pour qu'elle soit plus courte. Ça va être notre débat. Est-ce que vous aimez notre découpage en deux? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres idées sur la forme qu'on pourrait faire pour nous améliorer, pour devenir meilleurs? N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog. Nous les prendrons en compte, alors plus ou moins rapidement, parce que en général, on essaie d'être un peu à l'aise avant de faire des changements. Et nous commençons de suite l'émission avec nos rubriques habituelles. Nous aurons aujourd'hui donc du easy reading, du presque neuf, du rattrapage, un petit hors-série. Et on commence tout de suite avec le easy reading. Nous allons parler du magazine Kramix. Le magazine Kramix est un magazine qui est édité par les éditions du Lombard, qui sort un rythme que je n'arrive pas à savoir, je crois que c'est du trimestriel. Et qui est un gros fourre-tout. Alors, ce sont des magazines thématiques. Le premier était un magazine qui s'appelait... Le thème, c'était La Preuve par Meuf, un magazine entièrement réalisé par des filles. Le deuxième s'appelait Jamais sans Mafia, titre que je trouve assez fun quand même, sur le thème de la mafia. C'est donc, comme ils le disent, un petit bazar graphicomics. Ça coûte 2 euros. Ça se trouve en librairie, ça ne se trouve pas en kiosque. Et c'est plutôt, petit bazar graphicomics, je crois que ça porte bien son nom. Dedans, on a de nombreuses BD courtes, on a quelques séries qui essayent de revenir, qui sont revenues du numéro 1 au numéro 2, et quelques nouvelles aussi qui essayent de mettre dans l'ambiance. C'est très inégal, alors on a des auteurs de qualité qui y passent, on va aller partir pour le premier tome, je vais aller vite fait. Pénélope Pagieux, Peggy, Laurel, Elisa Brunet, Aurélie Domé, Thil Collardet, Karine Bernadou, Linda Corraza, Maureen Louis-Émile, Claude K, Virginie Vidal, Brigitte Luchenier, Colonel Moutarde, Sandrine Revel, Lila Malissiri, Sibylline et Malissiri, Florence Dupré-Latour, Caro et Sibylline, Claire Bouillac, Vanida et Sibylline, Gali, Mathilde Domègue, Laurel, Camille Burger, Capucine, Lucie Gomez, Hélène Brulère.
Ok, si tu voulais perdre tous les auditeurs, tu l'as fait. Là, ils sont déjà été à le podcast, ils sont partis chez eux.
Ouais, je sais, c'est raté. Bon, ils sont pleins. C'est effectivement réalisé que par des filles. Qu'est-ce que ça apporte? Que ce soit un numéro fait que par des filles. Attention, là, on va se faire taper.
Rien
du tout, en fait. Hein. C'est inégal. Il y a des bonnes choses, des choses qui m'ont beaucoup plu, des choses qui m'ont laissé totalement circonspect.
Donc c'est comme dans n'importe, enfin déjà c'est comme quand tu lis Spirou, hein. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont moins bien. Il y a des bonnes pages où on se fend bien la poire et puis il y en a d'autres, voilà, ça on passe à la suite.
Oui, mais on reste quand même dans le comique. Hein.
On reste dans le comique, mais moi j'ai trouvé ça assez sympathique dans le sens où voilà, c'est de la lecture vraiment facile. On peut trouver des trucs vraiment, vraiment au top. Le petit truc sur l'orgasme féminin était énorme.
Oui, Laurel, bravo. Pourquoi passe-t-on, franchement? Alors, clairement, c'est vrai que, on va dire, un truc entièrement réalisé par des filles, on pourrait s'attendre à un truc qui parle que de sujets féminins. Non, en fait. Ce qui est normal, je veux dire, les filles n'ont pas vont pas parler que de trucs de filles, elles ont sûrement d'autres choses à raconter.
Ah bon?
Oui, ouais, je t'assure. Mais bon, ce problème de la thématique, moi j'ai surtout trouvé dans le numéro 2 qui est sur le thème de la mafia. Et en fait, très rapidement, on est très très loin de la mafia en fait. Hein. La thématique est complètement laissée de côté. Alors la couverture de Clark est sublime, elle est très très drôle. De toute façon, moi j'adore Clark. Mais alors. Voilà, je pensais que j'allais vraiment avoir quelque chose qui traiterait d'une thématique à chaque fois, et bah pas du tout, parce que le thème de la mafia y est plus, quoi, très vite. Par contre, moi, ce que j'apprécie, c'est que ça permet de découvrir plein d'auteurs différents, de dire des choses très variées. Comme je dis, hein, y a à boire et à manger, tout le monde y trouvera des trucs qui lui plaisent ou pas. Et que pour 2 euros, ben, combien de pages ça fait? C'est 48 pages, un truc comme ça?
Ouais, c'est ça, je crois. 40, 50,
54 pages. 52 pages, oui, c'est un multiple de 4. 52 pages, bah, c'est plutôt pas mal. Y a des histoires qui m'ont bien plu, bah, d'autres qui m'ont moins plu. Le seul truc que je trouve dommage vraiment, c'est que ce non-respect de la thématique, en fait. Ça aurait été bien qu'on ait vraiment réussi à avoir ce fil conducteur de la thématique sur chaque numéro. Voilà. Tu en penses quoi ?
Je pense que pour 2 euros, c'est une bonne petite lecture. Et du coup, là, tiens, on rebondit. Franchement, peut-être que dans un futur très 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 lointain, dans une sorte de très très lointaine galaxie, en numérique, j'achèterais bien un truc comme ça.
En numérique, ça te tenterait ?
Bah, voilà. Donc à 2 euros, voilà, je veux dire, ça c'est peut-être pas une lecture que tu referas ensuite.
Oui, c'est du magazine.
C'est du magazine, mais voilà. Du magazine.
Voilà, ouais, pour toi d'accord. Ouais. Magazine.
Est-ce que la discussion a un petit peu continué ensuite, hein, voilà. Par rapport à ceux qui étaient là il y a 15 jours.
Oui.
Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, oui. et nous avons beaucoup changé.
Voilà, le café a filtré. Voilà. Nous pouvons enchaîner sur notre rubrique presque neuf.
Le presque neuf commence par
Scalped de Jason Aaron et R.M. Guerra.
C'est super, donc je vais en parler, mais en fait, juste on vous précise que maintenant on a fait des petites fiches pour les trucs et tout, et qu'en fait, Pierrick est en train de garder toutes les fiches.
Voilà.
Merci. Donc Scalped, donc, qui est une...
C'est une bande dessinée.
Sérieux ?
Ouais, non, oh, je t'aide à finir tes phrases.
De chez Panini Comics, donc qui coûte 13 euros. Alors, l'histoire rapidement. On se retrouve donc à débuter donc, l'histoire dans une réserve indienne. Une bonne bagarre dans un bar. Et on s'aperçoit donc rapidement que la personne qui déclenche la bagarre, on va dire de manière totalement volontaire, est un ancien de la réserve qui l'a quitté il y a plusieurs années. À 13 ans je crois donc, et qui est revenu et on ne sait pas encore vraiment trop pourquoi mais il va servir on va dire de porte-flingue au patron de la pègre locale.
La pègre locale qui se donne bonne figure en essayant de monter des casinos, sachant que les réserves indiennes sont des endroits où la pauvreté est énorme, le chômage est très grand et où donc forcément la pègre est puissante. Voilà. C'est intéressant, c'est une rentrée dans le monde des réserves, un monde qu'en fait on connaît assez peu, hein. On a beaucoup de clichés en fin de compte sur les réserves indiennes. Il y a juste un truc que j'ai pas compris vraiment, c'est pourquoi ce mec a des nunchakus. Oui, le héros a des nunchakus, il y tient beaucoup.
Au début, après, il n'en reparle plus.
Ouais, mais franchement, c'est un décalage total avec le thème. Pourquoi pas, après tout, hein, c'est peut-être sa façon de marquer qu'il n'est pas. Qu'il a quitté la réserve, qu'il s'est tourné vers d'autres choses. On est dans du thriller, du bon gros polar noir.
Ouais, du gros polar noir. Ouais.
Hard-boiled, comme on dit, c'est-à-dire bien bourrin, ça tabasse. On a le mystère du héros, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là. Alors on en apprend un peu en cours de lecture, forcément. Mais il reste à la fin de ce tome pas mal de questions dans l'ombre. Et un héros qui a l'air d'être bien dans la merde aussi.
Ouais, ouais. Voilà. Il a un sérieux vécu et des grosses casseroles qui traînent.
Voilà.
Moi, je dirais quand même un bon BD de chez Vertigo. Encore une fois, voilà, je dirais il reste toujours dans la même ligne avec des héros qui sont, on va dire, quand même des des gars quand même qui ont des gros soucis dans leur vie, hein, mais, mmh. Mais une histoire et un scénario qui est quand même bien, bien, bien ficelé. Quoi. Ça
bah
fait
moi,
bien
je,
penser à Under the Bullet.
Ouais, bah moi, c'est le genre de truc que je verrais bien en série télé chez ouais. Showtime ou HBO, tu vois, pour ceux qui sont intéressés un peu aux séries télé. Donc les bonnes chaînes du câble américaines, quoi, qui sortent de bonnes séries en général. C'est très bien foutu. Que peut-on dire sur le dessin de R.M. Guerra ? Alors R.M. Guerra est un auteur d'Europe de l'Est qui s'est fait connaître en fait en ayant fait Le Lièvre de Mars. En fait, les derniers tomes du Lièvre de Mars, qui est une série française scénarisée par Cotias, sont dessinés par R.M. Guerra, qui donc s'est fait connaître dans notre pays avant d'aller se faire un tour aux États-Unis. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, sur les dessins ?
Bien.
Bien, ouais, non, c'est super. Eh bien, achetez,
c'est bien.
Les dessins sont bien. Bon, je trouve ça très brouillon, moi.
Ouais, mais ça convient bien au style.
Ça convient bien au style, il y a rien
à dire. Ça convient bien au style parce que c'est peut-être un peu brouillon. Ouais.
Enfin, j'ai du mal à différencier certains personnages, savoir qui est qui parfois. C'est le gros problème que j'ai au niveau des visages. Le fait d'avoir choisi des personnages qui sont tous de la même ethnie, ils ont des traits qui sont tous très proches. Forcément. On a un style qui n'est pas un style très réaliste, dans le sens où il y a un petit côté brut dans le trait. Et voilà, les personnages n'ayant pas de signe distinctif vraiment remarquable, parfois on est un peu perdu.
Mais on reconnaît toujours très bien le héros.
Oui,
en
le
fait,
héros.
On prend un chauve avec un gros flingue, c'est lui.
Voilà. Vous voyez, le héros, par contre, oui, on ne le rate pas. Ça s'annonce pour le mieux. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne série qui annonce de très bonnes choses. On arrive bientôt à la fin de toutes les séries que je suivais chez Vertigo, et donc ben c'est une bonne suite. Et nous allons donc vous lire un petit extrait de Scalps. Alors, si vous avez des enfants à côté, cachez-les, bouchez-leur les oreilles, remplissez-les de cire, car c'est un peu cru. C'est parti. Bordel, t'as dit quoi là ?
J'ai dit, c'est moi ou vous les nègres de prairie. Vous schlinguez pire qu'un cul de Klebs crevé en plein mois d'août. Ça vous dérangerait d'attendre dehors que je termine mon barbecue ?
C'est quoi ce plan foireux ? Tu cherches à te faire buter ? Tu sais qui on est ?
Des mascottes de foot ? Rien à battre.
Chonka, c'est lui ! Le type qui fout la merde depuis 8 jours dans la réserve !
Ah ouais ? Je l'imaginais plus baraqué.
Putain de rapide, voilà ce qu'il est ! Je l'ai vu exploser 5 mecs comme des bouses !
Enfin, peu importe, le boss Red Crow veut lui parler. Tu m'entends, Ombré ? Le boss a dit que si on te mettait la main dessus, fallait pas te crever. Il ne devrait pas broncher si on t'escate un peu.
Alors passons à les préliminaires, mesdames. Qui va être la première fille de pute à implorer Jésus ?
Bien. Nous.
Mais là, un gros blanc.
Un gros blanc, oui.
Ben, la suite.
Nous passons donc au dernier des Templiers.
Le dernier des Templiers. Et encore. Donc, le dernier Templier. Donc, on reste, on va dire, dans la thématique d'il y a 15 jours, qui était la bande dessinée. Là, tu finis pas. Anthropomorphique.
Anthropomorphique, oui, la bande dessinée anthropomorphique. Pardon, merci. Anthropomorphique.
Surtout en plus que Brian Talbot, dans la préface de Granville, que nous avons vue il y a 15 jours, lui aussi donc, parlait justement du dernier Templier.
Dernier Templier. Faites gaffe à éviter les retours sur trop d'émissions, ça va être compliqué à suivre. Voilà.
Donc, qui est de Brian J. L. Glass et de Michael Avonomi, qui.
Oui, ne t'étouffe pas. Qui ? Ah, voilà, Michael Evanoming, c'est un nom très difficile. C'est rien qu'à le lire, il a ouf. Ah, voilà, c'est bon, tu te remets de Michael Evanoming ?
Ouais,
Michael Evanoming, si tu nous écoutes, sache que tu fais un effet à Mathieu phénoménal. Bon, il est connu pour Powers.
Et il est connu pour Powers, voilà.
Avec Bendis. Très très bon Powers.
Donc le dernier Templier, donc, ça commence. C'est une histoire, on va dire, de souris. Des souris donc, qui se retrouvent donc, dans un monde réaliste. Hein.
On est dans le monde des humains, c'est à l'échelle souris.
C'est à l'échelle souris.
Voilà, c'est pas comme dans Granville où c'est des animaux humains. Là, c'est des souris-souris.
C'est des souris-souris. Souris-souris donc, qui ont des croyances, qui ont une prophétie, qui ont eu une histoire. Et le village donc du héros va se retrouver être détruit par des rats. Et donc ce petit personnage donc va se retrouver à devoir suivre on va dire une sorte de mentor Il va devenir le padawan de quelqu'un.
Ouais,
et
son Obi-Wan,
son Obi-Wan. Et il va essayer donc de devenir un Templier. Parce que l'ordre des Templiers a disparu pour différentes raisons qui sont expliquées dans le livre. Et
dans le pavé, on peut dire.
Dans le pavé, ouais, pavé dans la main. Et on va dire, voilà, tu vas. On suit l'histoire, on va dire, de cette petite souris.
Tout en suivant en parallèle l'histoire.
Des survivants du village qui ont été amenés dans la capitale, justement, des souris. Et on s'aperçoit, voilà, qu'au fur et à mesure, il y a eu des traîtrises, il y a eu des personnes qui ont menti, qui ont manipulé, ainsi de suite. Donc voilà, c'est juste le premier tome. Donc il y aura un deuxième tome qui va suivre pour, on va dire, je pense, la fin de l'histoire. Je ne pense pas qu'il y en ait plus.
Je ne sais pas.
Voilà. C'est Moi, j'ai trouvé ça très sympathique à lire. Au niveau de l'histoire, ça tient bien la route. Même si, on va dire, des fois, les passages sur les... sur les histoires de croyances des anciens dieux, tout ça, ça devient un peu compliqué à comprendre.
Ouais, mais j'ai une influence très 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 marquée de catholicisme quand même. On sent un petit côté béni oui, je dirais. Voilà. Enfin, moi, voilà, pareil. Je dois avoir des problèmes de vue. En fait, j'ai encore eu beaucoup de mal avec les gueules des personnages, à savoir qui est qui. Ça doit être mon problème.
Ouais, mais en même temps, une souris.
Oui, une souris, ça ressemble à une souris. C'est...
Voilà. Et un rat ressemble à un rat.
Voilà.
Donc,
Par contre, le dessin de Michael Evenhoeming, toujours très noir, avec ses aplats de noir très marqués, ce côté un peu cartoonesque, qui pour le coup a un ancrage un petit peu plus brut. On sent le coup de crayon dedans. Un peu plus que dans du Powers, je trouve. Et ça passe très bien. Les dessins sont vraiment super sympas.
Tout à fait.
Voilà. Ça fait penser... Bon, alors, on peut pas s'empêcher de penser à Mosgard, qui est sorti il y a quelque temps. Donc, j'attends la suite avec impatience. Légende de la Garde.
Légende de la Garde.
Voilà. Je cherchais le nom français aussi. Au risque de se répéter depuis nos précédents podcasts, nous allons pouvoir saluer le travail d'édition des éditions Milady, qui nous ont encore concocté un petit cahier à la fin qui nous traite, qui est rempli d'interviews, de bonus, d'illustrations, de tout ce qu'on veut. Vraiment très 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 sympa. Et en plus des illustrations, quelques planches de BD en noir et blanc, et alors waouh, qu'est-ce que ça pète.
Et qui explique en plus des événements qui sont déroulés, enfin dont on parle dans l'histoire mais qui n'étaient pas expliqués.
Voilà.
Et là, voilà, on a des petits passages en plus.
Voilà. Alors, il faut savoir que tu as eu beaucoup de mal à entamer ce bouquin. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait quelques mois qu'on l'a, qu'il était au programme. On a dû le reporter à plusieurs reprises. Est-ce que tu as réussi à expliquer pourquoi est-ce que tu avais mis tant de temps à lire ce livre ?
La taille du pavé.
La taille du pavé. C'est vrai que c'est un gros bouquin.
Je dirais qu'on doit en être à 240... il doit y avoir peut-être 300... 250 pages.
250 pages à 14,90€ sur papier glacé. Oh, ouais. Mais c'est bon marché.
C'est bon marché. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à le lire et surtout à me lancer dedans, en fait, parce que je voulais avoir un peu de temps. Ce dont, on va dire, 3 heures de train pour Paris aide beaucoup, on va dire, à une bonne lecture.
Donc voilà, le dernier Templier, tu le conseillerais ? À qui ? Pourquoi ?
À qui ? À toutes les personnes qui aiment la bande dessinée.
C'est un peu vaste. Franchement, tu es généreux.
Non, mais déjà, c'est une bonne lecture, c'est sympa. Voilà, c'est sympa à lire. Après, il faudra voir, je dirais, sur l'ensemble, ce que ça va donner. Mais l'histoire est vraiment sympathique à suivre. Et puis, il y a des bons petits rebondissements. On ne sait plus trop à quel sens vouer, c'est sympa.
Oui, c'est pas si manichéen que ça. C'est les Templiers, on n'arrive pas trop à savoir s'ils sont gentils, méchants.
Petit retour à l'histoire, un petit peu comme à l'époque, on n'a jamais vraiment su qu'est-ce qu'ils ont fait, pas fait, bien, mal, voilà.
Okay.
Et la suite.
Nous passons à The Number 73304-23. 4153 6,96 8 de Thomas Ott chez les éditions modernes. Ça coûte 20€, c'est en noir et blanc, c'est dos toilé, cartonné, c'est du beau bouquin. Et c'est du sans-parole. Alors Thomas Ott, on va en parler rapidement avant de parler de The Number, est un dessinateur qui travaille à la carte à gratter. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un feutre, un stylo ou quoi que ce soit, et de noircir une planche, il prend une planche noire qu'il va gratter pour faire apparaître le blanc. Ça donne un style très particulier qui fait beaucoup penser à la gravure, en fait. À de la gravure comme on pouvait avoir la gravure sur bois ou les premières gravures qui étaient imprimées, d'imprimerie. Fait beaucoup penser à la gravure et c'est un style très très particulier, bourré de hachures qui mettent beaucoup de volume. Enfin, moi j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que c'est un style auquel tout le monde ne peut pas accrocher. Je veux dire, là je pense que il y a pas mal de gens qui ne doivent pas adhérer à ce genre de style.
Je dirais surtout en fait que tu peux en lire un, peut-être de temps en temps, mais lire un trop gros volume que de ça, voilà. Ce serait peut-être un peu lourd à faire. Surtout en plus, voilà, là dans celui-là, il n'y a donc aucun dialogue.
Oui.
Donc là, c'est vraiment, il n'y a que les dessins. C'est vraiment une histoire graphique. Hein.
Alors, c'est très très dur de faire une bande dessinée sans dialogue. Parce que ça demande d'avoir une narration parfaite et qui tienne la route. C'est le cas dans cet ouvrage. C'est l'histoire d'un condamné à mort qui trouve un bout de papier avec un nombre écrit dessus. Ah, tu me dis non ?
Non.
Moi, c'est l'impression que j'avais.
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était un condamné à mort qui avait donc caché dans sa Bible un numéro qui a eu une importance pour lui. Puis, il va l'amener sur sa chaise.
Chaise électrique.
Et... mais une fois que l'exécution a été faite, c'est un des gardiens qui va retrouver ce bout de papier et
qui va être obsédé par ce nom, parce qu'il va se rendre compte que ce nombre, il le rencontre partout dans sa vie.
Et surtout, c'est que c'est un nombre qui lui donne de la chance.
Exactement, c'est un très grand nombre, je vous l'ai dit, c'est le titre du bouquin. Franchement, ce livre a un gros problème, c'est que quand vous en a parlé comme ça, pour le trouver sur un site internet, il faut vraiment avoir une mémoire. Wow.
Chercher The Number de Thomas Hodge, ça passe tout seul.
Voilà. Sur Amazon, on le trouve. Sur la Fnac, je ne l'ai pas trouvé. Ouais. L'histoire est très sympa. Moi, j'ai trouvé. On suit vraiment la vie de ce mec qui profite de cette chance, qui ensuite en subit les conséquences, forcément. Hein. On est dans du conte noir. Hein.
Ça fait un peu penser à Lost, quand même, avec...
Oui.
Comment il s'appelle là, celui qui était vendeur de dans un truc mexicain, qui gagne
Hurley,
voilà.
Il y a un petit côté Lost, oui, effectivement, une histoire qui serait centrée que sur Hurley, sans l'humour, parce que c'est noir, c'est cynique. On est dans du cynisme. Thomas Sott, en général, de toute façon, ne fait que ce genre d'histoire. J'avais lu un autre truc de lui dont j'ai oublié le nom. Et c'est toujours des histoires sombres, noires, cyniques et tragiques. C'est un super bon bouquin. Voilà. Le style graphique peut peut-être buter au début.
C'est une lecture différente, mais c'est vraiment agréable.
Voilà. Puis le style graphique colle vraiment à cette histoire. Voilà. Pour moi, c'est... en gros, Thomas Sott, plutôt que de noircir la page blanche, voilà, il fait la lumière sur sa planche. Ouais, hein, ça te plaît cette phrase. Hein. Oui.
On la gardera.
Ouais. J'essaierai de l'utiliser pour un autre truc un jour. Hein. Nous passons à notre rubrique rattrapage.
Rattrapage.
Beaucoup de rattrapage aujourd'hui. Nous allons commencer par Rockmaster.
Ouf.
Rockmaster.
Du lourd, hein. Du
Book
très très lourd.
Et Belcroof. Alors, Rockmaster, c'est un peu particulier parce que c'est une. Bon, ça date de 2004, donc c'est pas si vieux que ça. Mais c'est la suite d'un truc qui est sorti il y a super longtemps, Rockmaster, donc Échec à la Gestapo, c'est le nom du tome, qui est sorti il y a des années, et qui va être réédité comme le numéro 2 de la série. Donc le numéro 2 est sorti avant le numéro 1, mais il est indisponible maintenant. Bon, c'est très compliqué. Ce qui n'est pas très grave, parce que Rockmaster, de toute façon, c'est très compliqué. C'est une bande dessinée totalement absurde, qui nous fait suivre les aventures de Rockmaster, un héros à l'ancienne, un héros qui en a, un aventurier à la Indiana Jones qui va sauver les gens dans la jungle, en se battant contre des méchants nazis. Il est aidé par son acolyte qui s'appelle, je sais plus comment.
J'ai plus le prénom.
Qui est joué par Jérôme Mouchereau. Jérôme Mouchereau, qui est un personnage d'une autre BD de François Bouc, qui est quand même déjà plus connu. Et on part dans un grand n'importe quoi. C'est du délire total. C'est de l'absurde. Moi, j'ai été mort de rire tout du long. Maintenant, il faut accepter l'humour absurde.
L'humour absurde, l'humour gras. Hein. Il y a un petit peu de tout. Il y en a pour...
Il y en a pour tous les goûts. Mais c'est l'absurdité
qui est énorme.
Voilà. Il y a des histoires de gènes d'Hitler qui vont engrosser des africaines et des plantes pour les rendre maléfiques. Et enfin, ça part dans tous les sens. C'est construit de façon de petits chapitres courts. On est vraiment dans le côté feuilletonnant.
D'ailleurs, il joue dessus en te faisant comme si tu avais une sorte de petit résumé.
Oui,
les nouvelles aventures de Rockmaster va-t-il se sortir des griffes.
Puis il y a des épisodes, ils font 2 pages. c'est complètement. Enfin, ça m'a beaucoup fait rire. Alors, au niveau du dessin, c'est du François Bouc. On aime ou on n'aime pas. Enfin, moi, j'adore François Bouc. Je trouve qu'il a un style terrible. C'est un super caricaturiste. Un seul petit regret, alors regret entre guillemets, j'ai une édition particulière en noir et blanc, en fait. Il existe en couleur. On le trouvera plus facilement en couleur, je pense. Et on voit quand même que Bouc a dessiné pour être colorisé. Je pense que le bouquin doit être plus lisible en couleur qu'en noir et blanc. Là, parfois, bah, ça manque un petit peu d'aplat. Et il y a un petit bonus à la fin. Ils se sont fait une sorte de making-of comme si c'était un film, qui est aussi totalement dans le ton et complètement débile, qui m'a beaucoup plu. Avec une interview des plantes carnivores, les effets spéciaux où ils ont numérisé les enfants noirs nazis. Comment ils ont monté les décors pour les faire rentrer dans les planches, comment ils ont utilisé les déformations d'images pour faire les raccourcis. Enfin, c'est vraiment, moi j'ai adoré, c'est peut-être le truc que j'ai le plus aimé dans le bouquin, c'est ce bêtisier là qui malheureusement me semble n'est disponible que dans une édition tirée à 1500 exemplaires,
un collector,
voilà, pour Rockmaster de François Bouc, donc, que vous avez sans doute déjà vu pour Jérôme Mouchereau, Face de Lune, qu'il a fait avec Jodorowsky, et Bouncer, qu'il a fait avec Bouncer. Ah, c'est Van Damme, je crois. Je vais dire une connerie, donc Bouncer, un western qu'il a fait.
C'était peut-être bien lui.
Voilà, qu'il a fait.
Qu'il a fait.
Voilà. Du rattrapage. Plus rattrapage, on remonte un peu le temps, nous arrivons maintenant en 1987, avec
La Jeunesse de Spirou.
Le tome 38 de Spirou et Fantasio.
Donc La Jeunesse de Spirou, le tome 38, qui date donc de 1987, de Tom et Jean-Ry, qui va nous raconter donc la jeunesse de Spirou. Enfin, plus spécialement, ça va être en fait Spip, qui va nous raconter, on va dire, tous les événements... qui ont fait Spirou de tout petit jusqu'à le Spirou qu'on connaît aujourd'hui.
Enfin, on est quand même clairement dans une thématique prétexte. Parce qu'à part la première histoire, qui nous parle réellement de la jeunesse de Spirou, c'est surtout une succession d'histoires courtes de Spirou et Fantasio.
Ouais, mais ça passe bien. C'est...
Ah oui, mais j'ai pas dit que ça passait mal, mais à part la première histoire, en quoi est-ce que ça a l'air d'être la jeunesse de Spirou ?
Oh, c'est Spip qui raconte ses souvenirs après
oui, voilà,
ces événements qui ont fait que...
C'est une mise en scène qui est faite pour publier en recueil des histoires courtes de Spirou et Fantasio par Tom et Jean-Ry. Le prétexte est bon, hein, c'est bien amené. Spip est un personnage qui est assez fun, que j'ai toujours bien aimé. Et plein d'histoires courtes, bah vas-y, hein, fais un petit résumé rapide.
Ouais, là, ça va être compliqué de faire un petit... Enfin, il y a beaucoup d'histoires courtes, on va dire, qui vont présenter, je crois, un peu tous les personnages, que ce soit Fantasio, que ce soit le comte de Champignac, et voilà, on va dire la ville de Champignac aussi. Donc ça va être voilà, plein de petites histoires qui sont, je trouve, d'un niveau à peu près égal, et qui sont quand même plutôt bonnes.
Moi, je crois surtout que ce numéro est aussi important pour quelque chose tout bête. C'est que la première histoire qui nous parle de la jeunesse de Spirou, c'est C'est les prémices du petit Spirou, clairement. D'ailleurs, graphiquement, le jeune Spirou qui est représenté ne ressemble pas vraiment au petit Spirou.
Non.
On en est très loin. Par exemple, Fantasio est dans l'école de ce jeune Spirou, alors que dans le petit Spirou, il n'y a pas de Fantasio. Il y a des clins d'œil à tous les créateurs, que ce soit Franquin, Walter, je trouve plus le nom du créateur de Spirou, le vrai, le premier, Rob Vell, ou bien alors Monsieur Dupuis aussi. Hein. Des clins d'œil à l'oncle Paul qui racontait des histoires, des trucs historiques dans les Spirou il y a un moment, qui là est un poivreau pour le coup, ce qui est très très drôle. Voilà, enfin moi je c'est pas un numéro très important parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe en fait. Hein. C'est que l'histoire courte, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé l'incroyable Burp où on a un clin d'œil à Hulk avec bien sûr un champignon qui fait faire n'importe quoi, enfin classique, hein, une expérience de champignac qui tourne mal. Une petite histoire aussi très écolo. Sur une modification du climat et compagnie. J'avais trouvé ça assez marrant. C'est une réunion de savants qui essayent d'améliorer les choses dans le monde. Et bien sûr, dedans, il y a un méchant traître qui veut profiter de ça pour l'exploiter.
Voler tous les secrets.
Voler tous les secrets. Bref, un tome sympathique. Maintenant, voilà, si vous voulez une grosse histoire de Spirou et Fantasio... il peut sauter facilement. Pour moi, il a vraiment valeur que comme prémisse au petit Spirou, et puis aussi comme pour voir comment est-ce qu'avec du format court, on peut s'en sortir sur du Spirou. J'ai trouvé que c'était du Tom et Jean-Ri qui était très proche de Franquin pour le coup. On est beaucoup plus proche de ce que faisait Franquin que de ce que on fait ou feront Tom et Jean-Ri plus tard.
Par contre, je vois que tu n'as pas fait l'opération Spip, on t'aime.
Oui, je n'ai pas découpé mon livre. Oui, il y a des trucs de découpage pour aider Spip en envoyant.
Soit on lui offre 10 kilos de noisettes ou de cacahuètes, soit une nouvelle pantoufle. Rien, parce que je ne veux pas mimer mon beau livre, et donc du coup, c'était le choix de.
Voilà, c'était mon choix.
De pied qui a dit non, je n'abîmerai pas mon livre et je n'enverrai pas. Remarque que ce temps, il faudrait juste une case qui manque.
Hein. Ouais, trop bien. Valérian et Laureline, l'intégrale volume 2. Alors, Valérian et Laureline, l'intégrale volume 2. Nous avons déjà parlé, il y a quelques mois, du volume 1. Et là, nous rentrons dans, pour moi, le vrai Valérian, le Valérian que j'ai apprécié, le Valérian que j'ai retenu. Nous avons donc, dans ce tome, trois bouquins.
Trois nouvelles histoires.
Qui sont Le Pays sans étoiles, Bienvenue sur Alflolol et Les Oiseaux du Maître. Comme dans le volume précédent, nous avons une introduction de Stan Barrett qui replace la bande dessinée dans son contexte. Et un petit bonus que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est les deux premières planches des Oiseaux du Maître dans une version de prémisse qui n'a pas été retenue. C'est le genre de bonus qui est toujours assez sympa. Donc ce sont des bouquins qui sont parus entre 72 et 73. Ce qui ne rajeunit rien. Ce qui est plus vieux que nous. Donc,
voilà.
Voilà, ça nous rajeunit un peu quand même. Toi qui avais été un petit peu circonspect sur le premier intégral, qu'as-tu pensé de celui-là?
Déjà, j'ai eu, je trouve, une grosse progression graphique.
Progression graphique, oui.
C'est-à-dire que je trouve que... Je trouve que le héros, enfin les personnages et le héros sont dessinés d'une manière un peu plus, on va dire, c'est plus coordonné sur les trois albums déjà. Et les histoires sont très 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 actuelles pour un truc qui a 30 ans.
Pas loin de 40. Hein.
Ouais, pas loin de 40. On m'aurait dit que ça c'était un truc qui était sorti cette année. J'aurais peut-être dit bon, le style graphique est vieux, mais l'histoire en elle-même. Franchement, passerait tout à fait avec notre actualité. Donc, voilà, ça m'a beaucoup plus engagé que le premier volume. Et
De la SF intemporelle, quoi.
Ouais, non, vraiment. Et puis, ouais, des idées sympas. Voilà, des idées sympas. Et puis, un petit jeu qui s'installe entre Laureline et Valérian qui commence à créer son petit effet. Voilà.
Ouais. Oui.
Ça se met en place, quoi. C'est vraiment bien.
Alors, pour rappel, Le Pays sans étoiles raconte comment les héros se retrouvent coincés sur à l'intérieur d'une planète creuse, en fait, où les hommes et les femmes vivent séparément et se tartent sur la gueule, en fait. Ils se détestent. Et forcément, alors qu'ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de sortir et de sauver ces gens qui sont sur une planète qui, en fait, va s'écraser et va bientôt disparaître, Laureline va infiltrer les femmes. Se retrouve esclave chez les hommes, je crois. C'est l'inverse, je ne sais plus.
Elle se retrouve esclave chez les hommes et Valérian va aller chez les Amazones.
Chez les Amazones, il se retrouve esclave chez les Amazones. C'est très intéressant, ça parle de lutte des sexes, clairement. Sans jamais donner raison à un camp ou à l'autre, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, en sortant toujours... Enfin voilà, on n'est pas dans le côté « Ah là là, si les femmes se dirigeaient elles-mêmes, elles seraient dans les fleurs et ce serait beau et ce serait gentil. » Non, non, non. C'est pas non plus « Les hommes seraient des grosses brutes qui feraient que se battre. » Ils ont un peu pris ça à contre-pied, justement. Et j'ai trouvé ça très intéressant. La deuxième histoire, c'est « Bienvenue sur Alflolol ». Alors, « Bienvenue sur Alflolol ».
C'est un peu moins...
Bienvenue sur Alflolol, c'est donc...
C'est pas le peuple qui revient.
Oui, c'est le peuple qui revient. Bah là, on est vraiment dans une... Bon, en gros, c'est une planète avec un super minerai qui rapporte beaucoup, qui est exploité par la Fédération Galactique. Ça me rappelle un film récent.
Et les vrais habitants de la planète reviennent sur la planète, mais sauf qu'en fait, ils ont un cycle de vie qui est très très long, donc ils reviennent... très très peu souvent sur leur propre planète. Donc ils voyagent beaucoup, mais quand ils reviennent, c'est peut-être au bout de 2000 ou 3000 ans. Donc forcément, il s'est passé des choses sur la planète.
Et ils ont un cycle de vie tellement lent qu'en fait, ils sont oisifs, glandeurs, je veux dire, à la cool. C'est des babas cool. Clairement, je pense que par rapport à l'époque, on est dans des post-68 heures, enfin très post de pas très loin, babas cool total. Et forcément, face à l'administration... c'est ça, on est mai 68, quoi. On a les jeunes, là, pour le coup, ils sont vieux, qui veulent sortir du carcan administratif et des règles et de comment faut faire les choses, qui essayent de s'intégrer, mais qui arrivent pas du tout parce que les règles ne sont pas adaptées à leur personnalité et à ce qu'ils sont. Bien sûr, on commence à avoir les conflits très célèbres entre Laureline et Valérian qui sont pas d'accord sur comment gérer les choses. Et là, ça devient vraiment sympa. Justement, la relation entre les deux devient très intéressante. Toujours une histoire très actuelle. Le dernier tome, alors là, celui-là est bien stressant. Les oiseaux du maître. Un tome de SF bien stressante. Les héros, en fait, tombent sur une planète où ils se retrouvent esclaves.
Ils s'écrasent sur une planète
où ils se retrouvent esclaves. Une planète qui est dirigée par un maître qui arrive grâce à cette sorte d'oiseaux, enfin des cracocasses méchants qui bouffent tout le monde quand il n'est pas content, à contrôler, à se faire nourrir en fait. Les gens travaillent pour le nourrir. Et alors, on est vraiment dans de la très bonne SF parce qu'on a un niveau technologique très faible au départ, une ambiance très particulière, des règles spéciales. Les gens deviennent fous lorsqu'ils se font mordre par les créatures. Les héros qui commencent à péter un câble en cours de route, un rebondissement scénaristique qui nous explique petit à petit comment fonctionne réellement cette planète, une chute un petit peu cynique, et oui, parce que enfin, on va essayer de pas spoiler sur la chute, mais en gros. Disons qu'il y a un renversement de situation qui n'est pas forcément si positif que ça.
On va dire ça.
Au départ, mais qui finalement, bon, les héros arrivent à rattraper la situation. Mais bref, encore un très bon tome. Et puis, bah, les dessins continuent à s'améliorer. On a moins. Il y en a encore quelques-uns. Je faisais des reproches sur la narration avec les flèches qui nous disaient dans quel cas aller lire. On en a beaucoup moins. Quand ils y sont, ils sont même pas forcément nécessaires parfois. Ça marche beaucoup mieux. Franchement, c'est un très bon tome. Moi, ça m'encourage grandement à lire les suivants. Valérian et Laureline, l'intégrale volume 2, chez Dargaud. et qui coûte. Et bien sûr, j'ai oublié de regarder le prix. C'est un code, je crois qu'il est à 19 euros. Voilà.
C'est sympa. C'est sympa à lire.
C'en est fini pour nos rattrapages. Nous passons maintenant à notre hors-sujet. Un hors-sujet, pas totalement hors-sujet, car nous allons parler de Comic Box. Comic Box est un magazine sur les comics. Principalement en VF, il essaye de se tenir à l'actualité VF, et c'est un magazine très 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 bien foutu. Je le suis depuis le début. Il ne me manque que le numéro 0, qui est sorti dans quelques comic shops à l'époque où il n'y avait pas de comic shop là où je traînais. Il arrive à s'intéresser aux comics de façon très très variée, d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique. Et moi, je suis complètement fan. Ça fait partie de ces magazines que je dévore du début à la fin. Tellement c'est bien foutu. C'est bourré d'interviews, de qualité. Franchement, on apprend des choses sur les auteurs. Ils se permettent d'être un petit peu incisifs avec certains auteurs. Auteurs qui parfois donnent l'impression de se lâcher un peu plus, sachant qu'ils vont pas être lus par leurs éditeurs. Américains, ouais, c'est l'impression que j'ai parfois. Ils se permettent de dire certaines choses qu'on... On n'a pas l'impression d'être dans un making-of de film américain où c'était le plus beau travail de ma vie.
Cet acteur était formidable. J'ai travaillé avec lui, j'ai eu l'impression qu'il réinventait totalement le métier. C'était énorme.
Voilà, on devrait faire des making-of. Dans chaque numéro, on va retrouver quelques rubriques classiques. Donc, déjà, on a les interviews. On a 22 pages de BD. Depuis le dernier numéro qui a un petit peu changé la formule, on a une preview d'un numéro d'un magazine qui va sortir en kiosque et quelque chose d'inédit. La preview, moi je suis pas très fan de l'idée, j'aimais bien avoir que de l'inédit.
Ouais, c'était mieux parce que là la preview c'était donc en l'occurrence c'était Kick-Ass.
Ouais.
Et
bon, l'ayant acheté derrière
Ça a permis de sauter des pages mais bon, pas plus.
Voilà. Donc je préférais, c'est vrai, qu'il y avait que de l'inédit, le côté preview je pars du principe qu'un gars qui achète un magazine sur les comics, à la base, c'est qu'il va acheter des comics. Donc avoir une preview, une critique suffit largement pour avoir envie de l'acheter.
Surtout une critique de qualité, ce que fait quand même très très souvent Comic Box.
Oui.
Des critiques qui donnent envie de lire ou au contraire qui ne donnent pas envie.
Arrive aussi.
Ça arrive aussi, mais du coup, ils sont assez clairs sur ce qu'ils vendent. Quoi.
Oui.
Donc la critique suffit, je dirais pas la peine de faire des previews.
Ensuite, on a un comic book, je vous le fais dans le désordre, on a un comic book qui est décrypté, c'est-à-dire un numéro d'un magazine ou d'un comics en librairie qui vient de sortir, et ils nous le remettent dans le contexte. Pourquoi ? Parce que les comics, c'est des années de continuité, il nous manque peut-être des éléments pour tout comprendre, pour saisir les allusions qu'il peut y avoir à certaines vieilleries qui nous auraient échappé ou qui n'ont pas été publiées, ce qui arrive aussi. Qui est pas mal foutu, et puis des articles de fond. Alors là, le dernier numéro est encore caché chez Mathieu. J'en ai ressorti un qui traînait, où on nous parle par exemple du rachat de Marvel par Disney. Et un article de fond qui était très intéressant parce que il se posait les bonnes questions, je trouve, sur comment risquait de se passer cette alliance, sur comment ça s'était passé quand Disney avait racheté d'autres entreprises. Et j'avais trouvé ça vachement bien parce que en gros, il ne s'intéresse pas qu'à la lecture, il s'intéresse à tout le côté socio-économique et socio-culturel qu'il y a derrière, ce qui est assez énorme. Ensuite, on a en dehors des interviews dont je parlais, des découvertes de nouveaux talents, des articles de fond qui vont nous remettre dans le bain sur un élément de l'histoire. En général, par exemple, à l'arrivée d'un nouveau gros crossover, on va toujours avoir un article qui nous dit « Bon, voilà où on en était avant ce nouveau gros crossover, vous allez pouvoir vous lancer dedans, clairement. » Ils s'amusent beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller chercher les erreurs de continuité. J'adore quand ils disent « Ah, et si ce truc sorti du néant, ils l'avaient exploité ?» En gros, ils arrivent à en savoir plus que les scénaristes eux-mêmes sur certaines séries. Moi, ça me fait mourir de rire. Ils s'intéressent pas mal aux éditeurs et aux auteurs indépendants aussi. Alors, ça n'a pas la plus grande place dans le magazine, mais ça permet quand même de voir que il n'y a pas que Superman et Spider-Man dans la bande dessinée américaine. Ça, c'est pour le gros du magazine. On arrive ensuite sur tout ce qui va être le côté planche contact. Alors planche contact, ça c'est magique. En gros, ils ont demandé à un illustrateur de choisir des planches qui lui plaisent et de dire pourquoi. Et moi, j'adore ça. Déjà parce qu'en général, c'est des bons illustrateurs.
A priori, ils prennent pas n'importe qui, mais surtout, c'est que c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils les ont fait ou de voir que voilà, c'est pas non plus si facile que ça de faire des fois des illustrations.
Ils s'intéressent aussi parfois à des sujets un petit peu transversaux. Quand ils sont intéressés à Marvel 14, le faux documentaire sur Marvel 14, un magazine qui n'est pas sorti, qui est devenu un vrai documentaire sur la censure de la bande dessinée américaine en France. Une rubrique sur les webcomics. Plein de news sur les adaptations ciné, les adaptations en dessin animé qui sortent en DVD, leur courrier des lecteurs, les sites web qui sont bien, un guide de lecture, que je trouve un peu léger quand même, leur guide de lecture.
Ouais, enfin, t'as quand même 50 pages à vendre qui t'expliquent bien ce que tu peux acheter.
Un guide de lecture sur 2 pages qui, en général, est gentil tout le temps, j'ai l'impression. C'est rare qu'ils nous disent « Surtout, n'achetez pas ça dans le guide de lecture !» D'un autre côté, si le truc n'y est pas, c'est que faut peut-être pas l'acheter.
Ouais, je pense qu'il y a assez de sorties comics pour qu'ils en mettent que 2 pages. Hein.
Voilà, quelques pages sur les toys, les trucs qu'il faut surtout pas lire, parce que sinon on est trop tenté, ça donne super envie. Il y a des figurines superbes sorties du néant. Et enfin, de la news sur tout ce qui se passe. Dans la nouvelle formule, on a de la news plus accès adaptation. Et de la news plus accès nouveautés dans les BD. Et la fameuse rubrique de fin, qui clôture tous les numéros de Comic Box depuis le début, c'est le docteur Psycho, qui va se poser des questions essentielles sur les personnages de comics, à savoir qu'est-ce que mange un super-héros, les super-héros vont-ils aux toilettes, les raisons des costumes, pourquoi les super-héros n'ont pas de maman mais des tantes, et ainsi de suite. Voilà. Donc Comic Box, c'est du bimestriel, donc tous les 2 mois. Ça coûte 6,50€, mais je crois que ça a un petit peu augmenté avec la dernière formule.
Je sais pas, il faudrait qu'on le magazine.
Voilà, mais c'est toi qui l'as chez toi.
Pardon. Hein
et c'est franchement un magazine que je vous recommande si vous voulez vous intéresser aux comics, si vous voulez découvrir cet univers, parce que c'est bien fait et que plus que ce que nous on peut faire...
Découvrir, je te dirais peut-être un petit peu non, parce qu'en fait c'est quand même vachement pointu.
C'est vachement,
je dirais, si ce sont des personnes qui n'ont jamais lu de comics, lisez d'abord des comics, après vous lirez Comic Box, parce qu'il y a quand même des choses, il y a des articles, faut en avoir lu pour quand même comprendre tout ce qui s'en...
Je manque peut-être un peu de recul, mais je trouve que par exemple, quand là je vois il y avait un article sur Dark Reign, pour quelqu'un qui connaît vaguement les personnages Marvel, ça permet de se lancer dans la saga Dark Reign sans être trop largué, quoi.
Ouais, disons que je suis pas un lecteur de comics au départ, on va dire vraiment assidu, c'est toi qui m'y as mis, mais je dirais qu'il y a des articles au tout début, quand tu me passais le Comic Box en même temps que les comics, j'étais un petit peu largué sur certains articles, hein, ouais. Parce que c'était des références que j'avais pas un brin du tout. Et là, tu lis le truc et tu fais ah, tiens, on dirait un manuel de pédagogie. Voilà. Ouais. Et non, c'était il y a des trucs, c'est beaucoup trop pointu et c'est dur à suivre. Maintenant, au demeurant, avec un peu plus d'expérience, je dirais que tous les articles sont vraiment très intéressants et je les comprends beaucoup mieux. Mais pour commencer, le Comic Box, c'est peut-être pas le truc à lire.
Il faudrait peut-être qu'on fasse une émission spéciale « Quoi lire pour commencer du comics ?»« Quoi lire pour commencer en manga ?»
Ouais, ok, tu le mets dans la case à idées, c'est la boîte qui est déjà pleine.
Ouais, on verra. Bien, nous avons fini avec cette émission. Nous nous retrouvons donc dans 15 jours. Sachez que le 1A Club, c'est aussi votre émission. Notre objectif, c'est que des gens qui aiment la BD parlent de la BD. Donc, si vous êtes auteur, fan, et que vous avez une BD qui vous tient particulièrement à cœur et dont vous voulez parler, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes dans la région de Marseille, on se fera un plaisir de vous accueillir à notre prochain enregistrement. Bon, on n'accueillera pas les 150 fans qui seront à nos portes.
Non, les 3000, tu veux dire.
3000, oui. Et puis, le meilleur moyen de vous faire connaître et de nous faire connaître, c'est de laisser des commentaires sur iTunes, de devenir fan sur notre Facebook, facebook.com Et ça va, ne rigole pas. facebook.com/oneaclub. De me suivre sur Twitter, twitter.com/oneaipied. Et puis de laisser des commentaires sur le blog, blog.jeudepied.org. Merci à vous. À dans 15 jours. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.